France Culture.
Noa Bass, bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
À voix nue, épisode 4. Que ton alimentation soit ta première médecine. Phrase d'Hippocrate que vous avez faite vôtre, n'est-ce pas ?
Absolument. Absolument, parce que je suis absolument convaincue depuis toujours que la façon avec laquelle nous nous alimentons est le premier vecteur de bonne santé. Après, il y a le côté génétique. Ça peut être compliqué si on est avec des gènes de dyslipidémie ou de maladies transmissibles où on ne digère pas le cholestérol et tout ça. Ça n'a rien à voir. Mais si on arrive à choisir correctement ce qu'on met dans notre assiette, c'est une façon de se prémunir contre beaucoup de choses, beaucoup de fléaux, notamment l'obésité infantile, qui est maintenant le sujet, d'actualité dans le monde médical, en France, en Europe et un petit peu partout dans le monde. Ce qu'on appelle en anglais des « couch potatoes », ces enfants qui sont avachis devant la télé, en train de manger des pop-corn et des chips, les sodas, les sucres
rapides. La malbouffe, oui.
Voilà, la malbouffe. Moi, ça a été, franchement, d'abord un intérêt personnel. J'adorais refaire les recettes traditionnelles, à la fois de la cuisine à l'épine et levantine et libanaise dans laquelle j'ai été élevée. Et également le côté suisse et européen. J'essayais de mettre moins de beurre, donc je revoyais tout. Et franchement, je me focalisais sur les épices, ce qui donne du goût, moins de sel. C'était devenu un réflexe. Et en même temps, les gens, quand ils venaient manger à la maison, ils se disaient « mais c'est bon ». Oui, c'est moins gras, mais c'est bon. Alors, le gras est un sujet, je sais, en France, un petit peu tabou. Mais le gras que nous utilisions à la maison, c'était du beurre clarifié. Donc, le beurre clarifié, c'est l'équivalent de l'huile d'olive sur pâte. C'est comme le serrano, le jambon cinco rotas espagnol. C'est du bon gras. Cette idée de bon gras et de mauvais gras, forcément, quand vous savez qu'en Orient, il y a le plus haut taux d'hypercholestérolémie familiale, vous apprenez à faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Mais suis gourmande. Donc
vous êtes gourmande et d'ailleurs on va y en parler beaucoup dans cet épisode, Noa Bass. Mais d'abord sur les liens encore entre cuisine et médecine, est-ce que vous pensez toujours quand vous mangez en docteur ?
Non, je me laisse aller au plaisir, heureusement, parce que sinon ce serait vraiment ennuyeux pour moi et pour les autres. Mais disons, je vais tempérer. Dans un menu, un jour où j'ai mangé vraiment, par exemple, j'adore le pigeon en croûte de Christian Constant au Violon d'Ingres, et c'est la pleine saison en ce moment. Je vais manger ça, mais le soir, je vais me contenter d'une pomme, d'une salade et d'un petit yaourt. J'équilibre, c'est-à-dire je me fais plaisir, parce que ça, c'est le béaba de la vie, se faire plaisir. C'est aussi mon cheval de bataille dans l'éducation du goût. Je dis souvent, mais tenez compte des goûts d'un enfant. Oh, je lui ai interdit ça, mais pourquoi vous lui avez interdit ? Par exemple, le chocolat, ça, c'est un sujet qui revient tout le temps dans mes consultations. Docteur, il ne mange pas bien et il mange tout le temps du chocolat. Je dis, mais le chocolat, c'est pas mauvais. C'est très bon, le chocolat. Mais ça dépend à quel moment on le mange.
Vous ne pensez pas toujours en docteur quand vous mangez, Noa Bass. Mais si je vous pose cette question, c'est pour vous amener sur votre enfance, là encore, et sur notre famille, parce que je crois qu'il y avait quand même des lubies diététiques de vos parents quand vous étiez petite. Je pense notamment à l'huile de foie de morue 3 fois par semaine, ou à l'œuf cru. Et vous en avez gardé quelque chose de ça, souvenir, ce souci de la nutrition, même si c'était difficile.
C'est ça. C'est-à-dire que c'était des lubies. Alors, l'huile d'olive à jeun, ça passait encore avec un peu de miel, c'est très bon. J'ai appris après les pouvoirs de bien-être que ça pouvait donner, mais c'était comme ça. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai parlé de dictature. Quand on était en randonnée le matin et que c'était le luxe suprême d'avaler un jaune d'œuf cru qui venait d'être pondu 2 heures avant, quand on sait que nous vivons dans une région où la salmonellose est à l'état sauvage, je veux dire la typhoïde et les paratyphoïdes étaient partout, c'était de la folie pure de nous imposer ça. L'huile de foie de morue, c'était le rachitisme, machin. En fait, Mes parents avaient gardé de leur propre enfance qui s'était passée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans la partie du Levant, la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas comme en Europe. Mais je pense que ma mère avait gardé, et la Suisse en plus était un petit peu à l'écart, mais il y avait eu des privations, il y avait eu forcément des privations parce que les matières premières ne circulaient pas et tout ça. Et je pense que quelque part, ils voulaient une alimentation idéale. Ça n'existe pas. Ceci dit, j'étais filiforme, j'étais comme un grain d'haricot vert. Donc peut-être que ça avait des petits... Nous étions tous très minces et très en famille.
Et malgré, très minces. Malgré tout, la découverte de la gourmandise chez vous a commencé toute petite. Ce que vous racontez dans La nuit de la pistache, avec les plats fétiches. D'ailleurs, c'était vrai à Alep, ça a été vrai ensuite à Beyrouth. Vous êtes née dans une famille, Noah Baz, où la table avait une très grande importance.
Absolument. Une place de premier choix, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'était marrant. Alors, ça arrive également en Europe, je le vois également de temps en temps. Mais nous étions en train de petit déjeuner. Mon père, surtout, parlait du dîner et de ce qu'il allait faire parce qu'il y avait le consul de France qui venait dîner ou il y avait l'archevêque de la paroisse qui venait dîner ou quelqu'un, voilà, le mohafez qui était l'équivalent du maire de la ville. Et donc, il fallait que ce soit parfait. Et donc, il fallait mettre ça comme entrée et tout. Nous étions au petit déjeuner et ça discutait déjà du goûter et tout. Alors, ma mère, elle, sa passion, c'était le thé, le goûter. Mon côté sucré vient certainement également de là, sauf que j'ai beaucoup d'affection pour la pâtisserie dite arabe, beaucoup plus que pour la pâtisserie française. Je suis incapable d'avaler un gâteau, vous savez, parfois un peu qui est très beau à regarder, mais ces gâteaux qu'on fait à l'avance, les bûches de Noël, c'est franchement une chose que je déteste. Je la fais moi-même à la maison parce que je fais une vraie génoise avec une crème parfumée très légèrement au kirsch. Je change chaque année ce que je mets dans la bûche de Noël. Mais ma terreur, ce sont ces gâteaux que j'arrive pas à nommer tout mous. C'est des espèces de mousse qu'on fait un mois à l'avance. Après, ils vous disent que quand on fait de la production, c'est comme ça, on peut pas faire autrement quand ça se passe, même dans les meilleures pâtisseries. Les bûches de Noël, ça commence la troisième semaine de novembre et ça se dégèle trois jours avant Noël. Pour moi, ça n'a absolument aucun goût. Ça n'a pas de sens même. Ça devient, c'est du pur commerce. Donc, je n'aime pas ça. Moi, si je dois choisir entre la pâtisserie française, forcément le baba au rhum, c'est ma folie. J'aime beaucoup les choux à la crème avec les profiteroles. Ce sont la glace, j'adore. Mais quand je parle pâtisserie, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une passion que j'ai écrite. Je pense que vous avez lu le livre de Miel et de lait. Pour moi, je pense pâtisserie arabe. Je pense aux petites crêpes fourrées à la hachta, c'est-à-dire cette crème qu'on fait à la maison, que j'ai réussi à reconstituer en mélangeant ricotta et mascarpone, et j'ai retrouvé le goût exact. Donc je gagne beaucoup de temps, plutôt que de la faire moi-même, en mettant du lait entier à bouillir et en écrémant, on prend cette couche de crème qui se forme et qui c'est très long à faire la hachta, mais c'est délicieux.
La cuisine était une pièce dans laquelle vous aviez le droit d'aller, de regarder faire.
Alors déjà, la cuisine, c'était pas une pièce, c'était cinq pièces. Cinq pièces. Il y avait ce qu'on appelle l'office, l'entrée, enfin voilà, là où on entreposait les produits. Je n'avais le droit d'aller que dans la pièce où, quand il y avait les mélassières de grenade qui venaient passer la journée, ou alors les effeuilleuses de roses pour la confiture de roses au mois de mai, à la fin, tout le monde se retrouvait autour d'une table avec des bancs et on partageait un repas. Là, j'avais le droit d'y aller et j'adorais ça. Parce que c'était la vraie vie. C'était tout simplement la vraie vie. Donc, je côtoyais ces femmes qui étaient souvent habillées de couleurs chamarrées de la campagne et qui étaient pleines de vie et dont le seul diplôme, c'était ce savoir-faire qu'on leur avait transmis. Et j'avais le droit d'aller dans cette pièce. Par contre, je n'avais pas le droit d'aller dans la pièce où il y avait les quatre fourneaux. Aga, les grandes cuisinières, j'avais pas le droit d'aller dans la pièce où l'on entreposer le fromage et les gâteaux qui venaient d'être faits, ça, j'avais pas le droit.
Mais ces femmes ont été les premières à vous apprendre les rudiments de la cuisine ?
Alors, il y avait la cuisinière sur place, à la maison, il y en avait deux. Mais j'avais pas le droit d'aller en cuisine. Par contre, avec ces femmes-là, j'ai observé les gestes. C'est-à-dire comment elles mettaient dans le jardin la grande bassine en cuivre dans laquelle elles faisaient la mélasse de grenade. J'étais fascinée par ces litres de jus de grenade qui étaient mis. Et à l'arrivée, il y avait juste un fond qui était délicieux parce que c'était l'équivalent du raisiné qu'on faisait en Suisse. Non, la personne qui a vraiment pris le temps de m'apprendre, c'est mon grand-père. Mon grand-père Léon, qui adorait cuisiner en catimini et qui avait une finesse, parce qu'il avait rapporté l'Europe dans ses valises quand il avait été faire ses études en Bavière, et puis en France, et ensuite à Genève, il avait rapporté l'Europe. Donc, nous écoutions, bizarrement, à la maison, la BBC, parce que j'entendais, quand j'étais petite, ça me revient, qu'il disait la vérité. Et que c'était parce que la radio d'État était surveillée. Et un des souvenirs les plus savoureux, c'est le pudding de Noël qu'il préparait un mois à l'avance. Il disait en arabe le pudingo. Et je regardais les fruits secs se mélanger au cognac et les pruneaux, tout ça. C'était délicieux. Elle arrivait un mois plus tard et je me souviens fascinée de ce gâteau qu'on faisait. Pour moi, un gâteau, ça se mangeait une fois que c'était fait. Là, le gâteau devait être conservé pendant un mois pour être ensuite posé dans une assiette, et puis on le flambait avec le cognac. C'était fascinant. Ça, c'est quelque chose qui vient de me revenir grâce à vous, Caroline Brouet, parce que c'est marrant comment il y a des souvenirs comme ça qui ressortent. Mais pour moi, pourquoi c'était la pâtisserie arabe ? Parce que l'année était jalonnée de moments gourmands. C'est-à-dire, à Noël, il y avait un gâteau spécial que l'on faisait à Noël. Pendant la période du carême, ce même gâteau, on lui retirait le beurre et le lait. Il était fait uniquement avec de l'anis et puis des épices. C'est marrant. Et puis à Pâques, le gras des gâteaux revenait et puis il y avait d'autres gâteaux. Enfin voilà, chez nous, je pense que dans tous les pays du monde, il y a des traditions, mais que peut-être dans cette région du monde, elles sont très très fortes parce que il y a une mosaïque d'appartenance ethnique. C'est comme un creuset dans lequel il y a 18 communautés qui se sont retrouvées.
En tout cas, c'est assez tôt que vous avez commencé à apprendre à faire de la cuisine. Et là, peut-être, on rejoint encore la médecine, puisque je crois que c'est en même temps que vous preniez les cours de pédiatrie, vous avez commencé les cours de cuisine, à l'école Le Nôtre, à Ritz-Escoffier,
oui,
par exemple.
Oui,
donc, j'allais quand même eu envie d'apprendre à cuisiner. En lien avec votre futur métier de pédiatre, ou en soi, parce que vous aviez envie d'apprendre à cuisiner?
Non, je pense que j'avais envie de mieux connaître la cuisine. J'étais enceinte de Stéphanie, ma fille aînée, qui allait naître à Paris. Et il fallait lui faire découvrir de ma double culture, c'est-à-dire à la fois lui faire goûter au plat du quotidien, ce meunier libanais qui fait le charme de la cuisine libanaise et que je retrouve jamais, sauf dans très peu d'établissements à Paris, il y en a un qui suit encore les traditions. Et pour moi, la meilleure cuisine reste celle qui est faite à la maison. Et quand je vais dans un restaurant, les gens maintenant me connaissent parfaitement, un restaurant libanais, ils ont très peur de mon jugement, mais je les mets à l'aise tout de suite en leur disant que chaque maison a ses traditions, son dosage d'épices, sa façon de faire. Mais pour vous donner une idée, même le za'atar était
fait. C'est quoi le za'atar?
Alors le za'atar, c'est, je vais dire, nos béquilles de résilience au levant. C'est un composé, un condiment qui est fait d'origan. D'origanum syriacum, c'est une variété d'origan qui pousse vraiment chez nous, dont on parlait déjà dans la Bible. Alors, pour certaines personnes, c'est l'hysope, pour d'autres, c'est de la marjolaine. Pour moi, c'est de l'origan, tout simplement, mais qu'on appelle zaatar en arabe. C'est-à-dire, au Liban, vous vous baladez dans les rues, le zaatar, ça peut être une salade. Le zaatar vert qui pousse sur les collines à partir de la fin février jusqu'à début avril, qui revient ensuite début septembre, c'est déjà des feuilles vertes d'origan avec lesquelles on peut faire une salade avec un peu de tomates, des échalotes, c'est délicieux.
Il y a autre chose que de l'origan.
Alors ça c'est l'origine, donc ça c'est donc l'origan syriacum auquel on va rajouter du sumac. Qui est une épice qui pousse abondamment dans le sud de la France, qui est un petit peu citronnée et qui est bourrée d'antioxydants, avec un indice AROC très élevé, donc l'indice qui quantifie les antioxydants. Et puis, il y a du sésame.
Alors après, donc, origan, le sel, sumac, sésame.
Sésame, voilà. Ça, c'est le zaatar auquel on rajoute un petit peu de sel ou pas, suivant les goûts. C'est le zaatar libanais. Parce qu'il y a plusieurs zaatars.
On aurait de quoi faire toute une émission sur le zaatar,
oui,
je
oui,
pense.
Oui, oui, parce qu'à Alep, le zaatar, il contient 14 composants. C'est le zaatar rouge qui a ses adeptes et que nous, on faisait à la maison. Voilà.
Mais ce que je vous demandais, pourquoi vous aviez choisi de faire de la cuisine aussi, pas un métier, mais en tous les cas plus qu'une passion, puisque vous avez appris à cuisiner. Et en 2009 même, Nora Baz, vous avez passé le diplôme universitaire des hautes études du goût et de la gastronomie à l'université de Reims. Oui. Donc là, c'était aussi pour parfaire vos connaissances en lien toujours avec votre métier de pédiatre.
Oui, et ce qui était très étonnant, c'est que après 12 ans d'études de médecine, j'apprenais encore des choses sur la neurophysiologie du goût, avec notamment Hervé Tis. J'apprenais encore la physique-chimie des molécules et comment elles se comportent entre elles. Et ça, c'est vraiment, vraiment ma passion. J'apprenais par exemple la physique des bulles de champagne. Et je pensais au départ que c'était un cursus, comme pour se faire plaisir. Une lecture, c'était par curiosité que j'avais été vers ces études. J'étais la seule Libanaise, la seule Levantine, la seule médecin. Et ça intriguait tout le monde parce que j'ai eu je ne sais pas combien de personnes qui sont venues m'interviewer et je leur expliquais ce lien qui était Hippocrate, tout simplement. Et donc, j'ai beaucoup appris durant ces hautes études du goût. Il y avait un examen écrit très sérieux. Les 25 personnes de la promotion le passaient. Et au bout de l'examen écrit, 15 étaient retenues.
Vous aviez un mémoire à rendre pour ce diplôme universitaire et vous avez choisi la transmission du goût aux enfants.
Ouais.
Donc absolument. On retrouve vraiment votre sujet et on retrouve également la façon dont vous parliez tout à l'heure de l'importance pour vous de transmettre à votre propre fille, Nora Baz. C'est-à-dire que vous étiez quand même portée par cette transmission qui ne vous a jamais lâchée.
Et elle continue aujourd'hui avec mes petits-enfants qui sont fous.
Et tous les enfants que vous...
Et tous les autres que j'ai élevés autour, oui, bien sûr. Il m'est arrivé de prendre des patients dans ma cuisine. J'avais une jeune fille notamment à laquelle je pense... qui avait une anorexie mentale qui commençait. C'était très douloureux parce que l'anorexie mentale est quelque chose qui culpabilise énormément les parents. Souvent, on met le doigt sur des failles que la mère, en particulier, aurait eues dans l'éducation. Pour revenir à cette jeune fille, sa mère était maladivement stricte. C'est-à-dire qu'une pincée de farine sur la table de travail de la cuisine, elle ne tolérait pas. Vous rentriez chez eux à la maison, ça sentait l'eau de Javel. C'était comme ça. Je pense qu'elle avait elle-même un problème. Un peu comme les orthorexiques, vous savez, ces personnes pour qui manger juste est une bible. Alors après, allez définir qu'est-ce que c'est manger juste. C'est ça que j'essaye d'assouplir. Et cette petite que je revois maintenant, qui est une magnifique jeune fille, j'avais prise chez moi dans la cuisine et je lui ai dit « t'as le droit de tout faire ». Pareil, à Beyrouth, la maison, on a plusieurs cuisines, donc je lui ai dit « tu fais ce que tu veux, la pâte à crêpes, c'est très facile, ça se fait comme ça, après je te laisse faire ». Elle est revenue, parce que j'ai deux cabinets de travail au Liban, un qui est en face du CHU, donc en face de l'hôpital, et un autre qui est sur le même palier que la maison, parce que c'est un immeuble familial, voilà. Et donc, je l'ai laissé faire, et je lui disais... Alors, au début, ça a été la panique, mais après, elle s'est prise de passion, mais elle faisait des crêpes, mais divines. Et ensuite, elle fait de la gestion hôtelière aujourd'hui. Donc ça me fait très plaisir. non seulement elle est guérie de son anorexie, sa maman a un peu compris les choses, mais sans passer par la case psychiatrie, tout ça, qui était quand même très lourde. Dans une vraie anorexie, c'est très lourd, le cursus de quelqu'un atteint d'anorexie mentale.
Ce mémoire sur la transmission du goût aux enfants, il a été publié
oui.
sous le titre « Un petit soleil dans votre cuisine ». C'est une sorte de guide pratique à usage des parents qui veulent inculquer les bonnes habitudes alimentaires à leurs enfants, Nora Baz. Et ça me permet de faire la transition avec les livres que oui. vous écrivez depuis longtemps. Maintenant, il y en a un certain nombre. « La recette d'où je viens »,« Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur »,« La nuit de la pistache », »,« Aux éditions de l'Épure », plusieurs. Vous avez écrit « Le zaatar », »,« Les huiles essentielles », »,« Le mastic de l'antisque », qui est une sorte de passion chez vous. Il y a aussi « Goût du Liban »,« Recettes et rencontres »,« Une patrie en vrac »,« De miel et de lait », sur une histoire des douceurs du Liban. Et puis le Levant, en 2025, dont on parlera dans l'épisode, dans le cinquième épisode. Et puis il y a les saveurs du Levant aux éditions Les Petits Soleils. Il y en a beaucoup. Écrire des livres pour vous, c'était compléter une double formation déjà. C'était quoi l'idée?
Alors, il faut dire que déjà, quand mon mémoire a eu ce prix...
Il a eu un prix,
c'est-à-dire qu'ils m'ont encouragée à écrire, en me disant, mais là, franchement, il faut écrire. Ce que j'avais déjà entendu dans mon cursus scolaire, lorsque j'étais en classe de quatrième, mon professeur de français, qui est une femme adorable, que je revois régulièrement aujourd'hui, elle militait pour que je fasse littéraire. Et c'était, donc en classe de quatrième, c'était quelques mois avant le début de la guerre. Donc nous rentrions de vacances, c'était octobre, la rentrée à Beyrouth se faisait au mois d'octobre. Et premier sujet de rédaction, racontez-nous vos vacances. Il se trouve que nous avions fait l'Italie, notamment Florence, avec mes parents, et que nous avions été voir le musée, les Uffizi, les Michel-Ange, les offices, donc en fait, voilà. Et j'avais décrit la Pietà de Michel-Ange. Je ne sais pas pourquoi, j'avais fait une fixette sur cette statue. Alors, elle rend les copies de rédaction à toute la classe, sauf la mienne. Et moi, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bon. Et là, elle s'assied devant toutes les sections de quatrième. Il y avait trois sections dans l'école privée où j'étais. Et elle déclare, je vais vous lire un petit bijou d'écriture. Elle lit ma copie. Et moi, je deviens cramoisie, rouge, parce que j'étais pas... Il faut dire que la scolarité, quand vous avez de l'avance, c'est pas toujours quelque chose de positif. Et voilà qu'elle lit ma copie. Et après, elle me dit, tu dois absolument écrire. J'ai éclaté de rire, parce que moi, l'étiquette matheuse était là. Je veux dire, affichée, matheuse, j'aimais les maths, j'aimais la physique chimie, j'aimais apprendre. Mais de là à écrire... Pendant mes années d'internat, quelquefois l'émotion était très forte et il y a un jet qui sortait, donc j'écrivais. J'écrivais sur des petits carnets, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais depuis, j'écris sur mon téléphone portable. J'écris tous mes livres sur mes téléphones portables. C'est ça qui, parfois, rend dingue mes éditeurs. J'écris quand je suis de garde. Et la nuit de la pistache, je le portais en moi depuis que j'étais enfant. Ça, c'est...
Ce sont les souvenirs culinaires.
Pas seulement culinaires. Le culinaire était une pirouette. C'était une pirouette et une pudeur. Je portais en moi ce livre. Je me disais qu'un jour, il fallait que je raconte cette histoire.
Donc, c'est votre Alep, et à travers d'ailleurs des photos de famille aussi,
ah, oui,
et
oui.
des recettes.
Oui, des recettes forcément, parce que je retiens la joie. À 6 ans, ce que vous retenez de la joie, c'est la nourriture, c'est les jeux. On n'avait pas le droit de sortir parce qu'il y avait des révolutions tout le temps. Donc la joie, elle était dans la maison. Elle pouvait venir de quoi? De la musique, des livres et de la cuisine.
Et aujourd'hui encore, Nora Baz, la cuisine vous réconforte? Vous faites la cuisine après vos nuits de garde à l'hôpital?
J'adore. Oui, et pas seulement, j'emmène avec moi des plateaux entiers pour nourrir. Quand je vois les morales en baisse, quand je vois les effectifs qui diminuent, les gens qui n'ont pas trop le moral. Paris, le matin, il n'y a pas de matin. C'est-à-dire, chez nous, le matin, c'est le soleil qui se lève. Ici, il fait gris le matin, il fait souvent nuit. Et souvent, quand je rentre de mes astreintes, il fait nuit encore. Donc, je rentre à la cuisine et je retrouve mon levant à travers le café, à travers la semoule torréfiée, à travers l'idée de ce que je vais faire à déjeuner. Les mercredis, c'est la fête parce que tous les petits-enfants débarquent, certains le matin, d'autres l'après-midi. Ils ont tous le goût de la cuisine et ça me ravit.
Et pour faire le lien entre la cuisine et les livres que vous aimez, aussi bien comme grande lectrice depuis toujours, Nora Baz, que comme écrivaine, désormais, vous avez fondé un prix, le prix Ziryab, en 2014, qui récompense des livres de cuisine. Mm-hmm. Qui était Ziryab? Pourquoi ce prix?
Alors, Ziryab était un musicien, esthète et gastronome que j'ai découvert, qui vivait d'abord au XVIIe siècle en Mésopotamie, la Mésopotamie qui était le verger et le grenier de ce Levant, de ce Proche-Orient où je suis née. Ziryab, je le connaissais pas du tout, mais je lisais les chroniques du journal de l'Institut du monde arabe qui s'appelait Kantara, dans lequel Farouk Mardambey avait une chronique qui s'appelait « La cuisine de Ziryab ». Et ça me fascinait parce qu'il avait une façon de raconter qui était sublime. D'ailleurs, j'ai appelé le prix par affection pour Farouk, le prix Ziryab. Et donc, j'ai eu l'idée de ce prix parce que c'était la période des prix littéraires. Nous étions début novembre, ça buzzait maximum autour du prix Goncourt, du Renaudot et tout. Et je disais, mais pourquoi il n'y a pas un prix qui récompenserait un livre gastronomique? La littérature gastronomique, ce n'est pas ces livres qui sont faits à la chaîne où on balance des recettes. Moi, c'était l'histoire qui m'intéressait, c'est-à-dire l'histoire du plat, comment il avait traversé les âges, pourquoi on avait eu l'idée de rajouter des épines vinettes, par exemple, au riz en Iran, pourquoi on avait eu l'idée de mettre de la sauce tomate. La tomate n'était pas du tout levantine. Ça ne venait pas de chez nous, la tomate. Elle était arrivée des États-Unis bien plus tard. Le riz n'était pas dans notre culture. Il y avait le blé, le bourgoul, ce qu'on appelle le bourgoul en France. On s'alimentait beaucoup avec le blé. L'Afrique et le blé fumé qu'on faisait et tout. Et donc pour moi, c'était une culture. La gastronomie est culture. Elle raconte un pays aussi bien qu'on peut décrire une région, une géographie. De toute façon, nous appartenons à une géographie en naissant. Nous appartenons quelque part à une région du monde. Donc,
on peut donc donner les lauréats des deux dernières années. En 2024, La foi, la fourche et la fourchette.
Oui, Dorothée Perkins, elle est extraordinaire.
Cuisine. Oui. Et en 2025, le prix a été attribué à Éric Birlouez pour son livre Le Pain aux éditions Kouaé. Et avec un coup de cœur du jury pour Bethléem, du chef palestinien Fadi Katan.
Oui.
Édition Solar.
Exactement.
On voit bien ce que ça donne.
Et voilà. C'est une globalité. En fait, les critères du prix, c'est raconter une tradition. C'est la transmission. C'est le fil de tous mes ouvrages, la transmission. Donc, la mettre à l'honneur à travers un prix, je trouvais ça équitable.
Merci, Nour Abbas, pour ces recettes de vie. On se retrouve pour le dernier épisode, l'épisode 5. J'hésite entre deux titres. Chercher le soleil au pays du miel ou bien la lumière du levant est toujours une promesse. Vous choisissez quoi?
Les deux.
On en mettra
parce
un.
Parce que ça se complète,
en fait. On dit les deux en radio.
Non, mais ça se complète.
Merci beaucoup. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Nour Abbas, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Loïc Duros, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.